Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés, prêt à vous servir, prêt à vous rassurer. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va parler vaccination. Mais pas uniquement contre le Covid, on va s'intéresser à la vaccination au sens large. Savez-vous quels sont les grands types de vaccins? Et d'ailleurs, savez-vous qu'on ne les administre pas tous grâce à une piqûre? On va vraiment reprendre les bases aujourd'hui concernant leurs bénéfices, leurs risques éventuels. Et bien sûr, on terminera avec les questions que vous vous posez encore sur les vaccins Covid. Pour nous éclairer sur tout ça, nous recevrons le professeur Michel Cognier. Il est chercheur et professeur d'immunologie au CHU de Rennes. Ensuite, dans notre chronique du vendredi bien chez soi, on vous propose aujourd'hui de vous aider à mieux faire vos courses alimentaires. Comment mieux choisir les produits que vous mettez dans votre caddie? Comment visualiser direct sur l'emballage qu'ils sont bons pour votre santé ou pas? On vous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra au questionnement d'une toute jeune mariée qui, quelques jours à peine seulement après l'heureux événement, remet déjà tout en cause.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question de Carole. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 55 ans. Je suis un traitement contre la ménopause, donc principalement pour les bouffées de chaleur qui sont très très désagréables et la fatigue. Au début du traitement que je suis depuis presque 10 ans, je prenais un traitement hormonal. Aujourd'hui, je suis un traitement sans hormones parce que le traitement hormonal ne me convenait pas. Mais il se trouve que le traitement non hormonal, donc Cérélis One que je prends maintenant, les désagréments sont toujours là. Je voudrais savoir si ça va durer encore longtemps. Merci beaucoup.
Alors, pour vous répondre, Carole, précisément sur cette question, nous nous sommes tournés vers le docteur Odile Bagot, qui était en studio avec nous il y a quelques jours, justement, pour parler de ménopause et de ses traitements. Elle est médecin gynécologue à Strasbourg.
Alors, parfois, à l'arrêt du traitement hormonal, surtout s'il est fait un peu brutalement, eh bien, les symptômes reviennent, comme les bouffées de chaleur en particulier. Alors, comment faire pour pallier à ce gros problème quand même? Alors, on peut commencer par tout ce qui est phytothérapie, homéopathie, etc., mais ça ne suffit pas toujours. D'abord, vérifions quand même qu'il n'y a pas d'autres pathologies, thyroïdiennes par exemple. Ensuite, eh bien, on pourrait peut-être reprendre à toute petite dose le traitement hormonal jusqu'à ce que les bouffées de chaleur finissent par disparaître, parce que ça peut durer quand même assez longtemps et même au-delà parfois de 70 ans, comme je l'ai déjà vu dans mon cabinet. Ne pas désespérer, mais rediscuter avec votre professionnel de santé pour essayer de trouver une solution, parce qu'il n'y a pas de raison de rester dans cet état-là.
Très bien, c'était le docteur Bagot qui est toujours positif au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, celle-ci, c'est la question d'Elena, on l'écoute.
Bonjour Jimmy, Mélanie, voilà, j'ai une petite question pour vous. J'ai 24 ans et j'aimerais donner mon sang, mais je ne fais pas 50 kilos. On m'a dit que ce n'était pas possible, mais je ne comprends pas pourquoi, vu que je n'ai pas de problème de santé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Merci.
Jimmy, alors effectivement, si être en bonne santé semble une condition préalable raisonnable au fait de donner son sang, d'autres critères comme celui du poids limite, au moins 50 kilos, semblent peut-être moins évidents. Pourquoi cette limite alors?
Alors, c'est pas parce que ces personnes sont plus fragiles, c'est tout simplement car la loi interdit de prélever plus de 13% du volume sanguin total d'une personne. Or, si vous êtes, comme vous Mélanie, d'un petit poids, de moins 50 kilos ou d'une petite taille, eh bien ce volume...
Moi j'ai les deux hein,
exactement. Ce volume est relativement bas, il ne permet pas d'atteindre les 450 millilitres nécessaires à la fabrication d'un produit sanguin de qualité permettant d'offrir une dose suffisante à un patient qui en a besoin.
Bon, moi je peux largement donner, je vous rassure. Au moins on a l'explication en tout cas. Au passage, puisqu'on parle de don du sang, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Jimmy, comment ça se passe un don du sang?
Alors tout dépend de ce que vous donnez. Si c'est un don de sang total, ça va durer une dizaine de minutes. Si c'est du plasma ou des plaquettes, ça va être entre 1 et 2 heures. Mais si on prend la chose la plus classique, le don de sang total, on va vous prélever entre 420 et 480 millilitres de sang en fonction de votre poids. L'acte en lui-même dure, je vous l'ai dit, une dizaine de minutes. Et puis si on rajoute un peu la paperasse, l'entretien, le temps de repos, la collation dont on raffole, eh bien on arrive à 45 minutes le temps de donner. Je vous rappelle qu'il faut respecter un délai d'au moins 8 semaines entre deux dons de sang total. Et puis les femmes peuvent donner 4 fois par an et les hommes 6 fois par an au maximum.
Allez, soyez généreux. On risque rien, c'est pas dangereux pour le donneur, vraiment, on en est certain?
Non, absolument pas. Toutes les précautions sont prises d'ailleurs pour garantir une sécurité maximale au donneur. On a un entretien prédon pour s'assurer que le prélèvement ne comporte aucun risque. Le don est supervisé par du professionnel de santé médicale expérimenté avec évidemment du matériel à usage unique. Et puis, certains vont décrire ce qui ressemble à un petit malaise vagal. Mais ne vous inquiétez pas, une collation vous attend juste après.
Alors juste pour le rappeler, parce que là aussi c'est important de savoir en bout de chaîne à qui ça va, quel type de malades ont besoin de ce type de don?
Alors il faut bien comprendre que le sang est pour l'instant irremplaçable. On ne sait pas créer un médicament pour remplacer le sang. Et les besoins, justement, en France, tous les jours, s'élèvent à 10 000 dons de sang par jour pour couvrir les besoins. Alors le don de sang, il permet de soigner tous les jours des millions de malades dans deux circonstances. Soit les circonstances d'urgence, hémorragie lors d'un accouchement, un accident de la route, une opération chirurgicale qui tourne mal, ou bien dans des cadres de maladies chroniques comme les maladies du sang ou certains cancers.
Pour terminer, il faut savoir que ce sang qu'on va donner dans les centres de l'établissement français du sang, il sert aussi à fabriquer des médicaments.
Exactement, immunoglobuline, des facteurs de la coagulation. Aujourd'hui, plus de 200 maladies sont ainsi traitées avec des substances produites à partir du plasma. Et les patients bénéficiant de ces traitements représentent à eux seuls la moitié des malades soignés en France. N'hésitez pas donc à faire un don et à vous renseigner en allant sur le site dondesang.efs.santé.fr.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler vaccination, mais pas uniquement contre le Covid, même si on en parlera bien sûr. Mais on vous propose cet après-midi de reprendre les bases. C'est quoi un vaccin? Que se passe-t-il dans notre organisme après une injection? Quels sont les risques réels? Quels sont les fake news sur le sujet qu'il faut combattre? C'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Michel Cognier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et professeur d'immunologie au CHU de Rennes. Et avec vous aujourd'hui, on a décidé de parler vaccination, mais déjà en général. Une émission préparée en collaboration avec la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale, qui est le premier financeur caritatif de la recherche biomédicale française dans son ensemble. Alors professeur Cognier, bien sûr, on n'en a jamais parlé autant de vaccination, de vaccin depuis un an, mais on va revenir nous aux bases cet après-midi. D'abord, le principe de vacciner des êtres humains pour nous protéger contre des maladies, ça remonte à quand, grosso modo, on va dire
hein? Écoutez, c'est une vieille histoire. La vaccination, c'est un petit peu l'école du système immunitaire. Donc en fait, on peut aussi apprendre sur le tas en étant malade, et c'est comme ça que ça a commencé, puisque le principe, c'est que le système immunitaire mémorise et apprend, un peu comme le cerveau. Et en fait, les débuts de la vaccination, c'est simplement d'exposer des enfants à la maladie elle-même. C'est ce qui se pratiquait au Moyen-Orient, en Chine. On appelait ça la variolisation. Enfin, on appelle ça la variolisation maintenant. C'est-à-dire qu'on exposait des enfants, parce que la variole est beaucoup moins grave chez l'enfant que chez l'adulte, on les exposait petits pour en faire des adultes qui seraient protégés. Et finalement, de cette observation et de l'observation du fait qu'en exposant des enfants à une variole animale, on pouvait aussi les protéger contre la variole humaine, et génère à la fin du XVIIIe siècle à inventer la vaccination avec la variole bovine.
Et quoi qu'on en dise, il faut le rappeler, la vaccination avec l'accès à l'eau potable, en gros, c'est ce qui a le plus amélioré la santé des populations.
Alors, il est vrai que la vaccination a à peu près éradiqué certaines pathologies infectieuses, comme la variole dont on parlait tout à l'heure. Et elle a considérablement diminué un certain nombre d'autres pathologies infectieuses. Et aujourd'hui, c'est vrai que la santé humaine a vraiment énormément progressé grâce à la vaccination.
Qu'est-ce qui se passerait si demain on décidait tous d'arrêter toute vaccination? On peut imaginer un petit scénario catastrophe.
Écoutez, je comparais la vaccination à l'école, donc c'est un peu comme si on arrêtait l'école. Donc ça frapperait d'abord les jeunes et on verrait refleurir des infections qui ont été endémiques ou épidémiques et qui ont été des plaies pour l'humanité pendant des millénaires, qui à nouveau pourraient se développer et amener une mortalité importante dans l'espèce humaine.
Alors on a compris que la vaccination, évidemment, elle sauve des vies, mais pourtant en France, selon des chiffres assez récents, 25% de la population avait une opinion malgré tout défavorable sur les vaccins. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays de Pasteur?
Alors, je pense qu'on a quelques joyeux zigotos qui font de la désinformation, qui surfent sur le buzz et sur les informations mensongères ou tronquées, mais c'est peut-être pas le plus important. Je pense qu'on a surtout un déficit d'informations scientifiques et le fait important est de donner aux gens les vrais chiffres pour leur permettre de se faire une opinion eux-mêmes. Et les chiffres, c'est ceux qu'on peut avoir quand on observe le niveau de santé des populations des pays développés qui vaccinent beaucoup, comme les États-Unis par exemple, où certaines pathologies ont complètement complètement disparu, d'autres ont diminué d'un facteur 100, comme les oreillons, la rougeole, la rubéole. Et par contre, dans les pays qui ne vaccinent pas, ces maladies continuent à prospérer. Donc, il est clair aujourd'hui, on a des données chiffrées pour dire qu'il faut vacciner.
On va revenir à des choses plus concrètes. En ce moment, on ne parle que de vaccins Covid. Mais quand on se vaccine en général, ce n'est pas que pour contrer des virus. On peut se vacciner contre quoi d'autre d'ailleurs ?
Alors, on peut se vacciner contre toute une série d'infections bactériennes, virales surtout. Contre les vaccinations parasitaires, c'est plus, pour l'instant, une recherche très importante d'ailleurs, parce que des pathologies comme le paludisme ont besoin de vaccins. Et aujourd'hui, il y a un gros effort de recherche dans ce sens-là. On peut aussi se vacciner contre des protéines comme des toxines. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on se vaccine contre le tétanos.
Et d'ailleurs, quand on parle de vaccin, on pense évidemment aux piqûres. Mais il existe d'autres formes d'administration d'un vaccin. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ?
Oui, par voie muqueuse, par voie orale, par exemple, beaucoup de vaccinations
fonctionnent. Par la bouche, quoi, comme un sirop,
absolument,
c'est ça, ouais.
Absolument, et en fait, on protège mieux contre une maladie, puisqu'il s'agit d'une école, on répète mieux si on fait les mêmes types de réponses que face à la maladie. Donc, si une maladie arrive par voie muqueuse, il vaut mieux avoir un vaccin qui est aussi administré par voie muqueuse.
Il y a des vaccins par le nez, en spray, je crois, même pour la grippe.
Oui, pour la grippe, ouais. On a le choix entre la forme administrée... En
piqûre
musculaire, en piqûre
ou
en spray nasal, ou par voie orale aux États-Unis, actuellement les deux fonctionnent.
Comment ça marche concrètement quand on nous fait une piqûre pour un vaccin, que ce soit par la bouche ou en piqûre, on nous administre quoi concrètement dans l'organisme ?
Mais en fait, le vaccin est un petit peu un facsimilé du pathogène, et donc on va faire une espèce de pseudo-maladie qui va nous permettre de mettre en place toutes les réponses protectrices, tous les mécanismes de défense, pour les avoir ensuite mémorisés et prêts à fonctionner quand on fait face au vrai pathogène.
Et du coup, quand on se vaccine, c'est à la fois pour se protéger nous, mais aussi la collectivité. En fait, il y a un double bénéfice à la vaccination ?
Absolument. Si on est malade, d'une part, on en souffre et d'autre part, on transmet. Donc, il est important aussi de casser la chaîne de transmission. Et il est vrai qu'il y a un bénéfice collectif également à la vaccination.
Et on est d'accord qu'on n'annihile pas ses propres défenses immunitaires, parce que, par exemple, la rougeole, on se vaccine aujourd'hui contre la rougeole. Tout le monde ne meurt pas de la rougeole, même si ça peut être le cas. Quand je vais me faire le vaccin contre la rougeole, mon système immunitaire reste efficace, quoi. On est d'accord, naturel, je veux dire.
Non seulement il reste efficace, il reste même renforcé, puisqu'il va mieux se défendre, ayant appris à se protéger. Donc, il est vrai que toutes ces infections ne sont pas systématiquement mortelles, mais elles sont en tout cas beaucoup plus dangereuses que la vaccination. Et une fois qu'on est vacciné, on est à l'abri de ces dangers.
Oui, parce que justement, c'est ce qui revient souvent. On entend parfois des patients dire « mais j'ai un système immunitaire un peu fragile, je préfère attendre un petit peu, j'ai peur que le vaccin m'affaiblisse ». Là, non, au contraire, plus on est fragile, plus on a d'intérêt à se vacciner.
Tout à fait. Je vous disais, on peut apprendre sur le tas. C'est-à-dire, on peut attendre en attendant d'être infecté, mais si on apprend avant, on se défendra mieux.
Très bien. Professeur Cogny, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur la vaccination en général. Nous verrons notamment comment on développe un vaccin. Pourquoi cela est-il allé si vite avec les vaccins Covid ? On va faire le point. Et d'ailleurs, il y a quoi précisément dans un vaccin ? C'est quoi un adjuvant ? On vous dit tout dans un instant. Restez bien avec nous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Michel Cogny, vous êtes chercheur et professeur d'immunologie au CHU de Rennes. Alors, grâce à vous, cet après-midi, on tente de mieux comprendre ce qu'est la vaccination au sens large et ses principaux enjeux, pas uniquement en matière de Covid, même si on y viendra. Quand on fait un vaccin, quel qu'il soit, je vais dire, il va se passer quoi dans mon organisme, dans les heures, les jours qui suivent, dans mon système immunitaire, par exemple ?
Écoutez, on va essayer de mimer la maladie, comme on disait tout à l'heure. Et une maladie, ça a toujours plusieurs phases. Il y a une phase qui est très rapide, c'est ce qu'on appelle l'immunité, la phase qui met en jeu l'immunité innée. Et ça se met en jeu en quelques heures. On appelle aussi les signaux qui déclenchent cette immunité innée des signaux de danger. Et donc, c'est un peu l'effet cherché avec les adjuvants. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer de l'inflammation pour que l'organisme réalise qu'il est agressé. Il va mieux répondre s'il a ces signaux de danger qui sont pour lui une espèce de sonnette d'alarme qui lui dit
de
réagir. Voilà, et qui vont activer ensuite des mécanismes un petit peu plus lents, qui sont ceux de l'immunité adaptative, qui vont permettre de produire des anticorps ou des cellules T protectrices.
Et donc un vaccin, c'est un médicament, donc évidemment qu'il y a possiblement certains effets secondaires, mais quels sont les plus fréquemment rencontrés après une vaccination ?
Alors les plus fréquemment rencontrés, ce sont justement ces effets qu'on cherche, en fait, qui sont déclenchés par les signaux de danger, donc c'est l'inflammation. Donc un vaccin, ça va créer de l'inflammation, ça va vous donner une rougeur,
une région endolorée au point d'injection, ouais,
éventuellement
ça.
De la fièvre. Donc des signaux d'inflammation qui sont ceux que vous auriez sur n'importe quelle réaction inflammatoire.
D'accord. Il y a plusieurs types de vaccins, certains contenant du virus vivant, inactivé. Enfin, il y a toutes sortes de vaccins. Dites-nous, grosso modo, les grandes familles, hors Covid, pour l'instant, c'est quoi les grands types de vaccins ?
Alors effectivement, vous avez des vaccins qui sont constitués du germe entier, soit vivant, atténué, soit tué, inactivé. Et vous avez aussi des vaccins qui comprennent simplement des composants de la particule virale ou bactérienne, donc ce qui peuvent être des sucres ou des protéines.
Un fragment, quoi.
Voilà, un fragment qui suffit à déclencher les anticorps la production d'anticorps protecteurs.
Alors avant le Covid, on disait qu'un vaccin était un des produits pharmaceutiques les plus difficiles et les plus longs à produire. En moyenne, 10 à 20 ans de travail. Est-ce que c'est vraiment ça? Et d'ailleurs, pourquoi c'est si difficile?
Alors c'est difficile parce que d'une part il faut isoler ces virus éventuellement inactivés ou atténués, c'est beaucoup de travail, sur certains pathogènes on n'a pas encore réussi à le faire, on peut penser bien entendu au virus du sida ou au paludisme.
Non, on est plus que 20 ans là maintenant.
Voilà, il y a beaucoup d'essais en cours mais pas encore de vaccins qui soient efficaces à large échelle, donc c'est beaucoup de travail pour identifier les antigènes qui vont donner une protection sans déclencher de problèmes liés au vaccin lui-même. Donc il faut identifier ces composants et puis ensuite il faut les tester. Il faut toute la série des essais cliniques de phase 1, de phase 2 dont on entend beaucoup parler à propos du Covid. Puis enfin l'essai grandeur nature qui permettra de tester le vaccin.
Donc 10 à 20 ans habituellement avec les vaccins classiques, on va dire. Comment ça se fait qu'avec le SARS-CoV-2, donc le virus responsable du Covid, on soit allé aussi vite et qu'on ait déjà même plusieurs vaccins disponibles aujourd'hui sur le marché?
Alors je pense que d'une part on a bénéficié de recherches qui avaient été faites auparavant, en particulier des vaccins qui étaient prêts contre le SARS-CoV-1. Et qui ont pu être dérivés dans une version adaptée au SARS-CoV-2. Et donc, on avait tout ça chez certains
déjà
laboratoires.
Dans les tiroirs.
Voilà, dans les tiroirs, au congélateur, prêt à ressortir. Et il a suffi, par chance, d'adapter les séquences des ARN vaccinaux ou des protéines vaccinales pour s'adapter au nouveau virus. Ça, c'est un point. Et puis, d'autre part, il y a eu un certain nombre d'autorisations exceptionnelles d'essais cliniques accélérés en fonction de l'urgence à laquelle il fallait faire face.
Alors, vous avez parlé des adjuvants, justement, et c'est une des craintes souvent des patients et des Français, c'est de se dire que ces adjuvants sont dangereux, notamment ceux qui vont contenir de l'aluminium. Alors, est-ce que c'est un fantasme? Est-ce qu'on en court quelque chose, qu'on risque quelque chose avec l'aluminium?
Écoutez, certaines de ces manifestations liées à l'aluminium n'ont été décrites qu'en France. Donc, on peut penser qu'elles sont plus liées au fait qu'on les cherche plutôt qu'à leur réalité. Malgré tout, chez certains patients, il y a peut-être réellement quelques problèmes rares. Globalement, je pense que le bénéfice-risque des vaccinations et de l'utilisation des adjuvants est quand même largement en faveur de la vaccination et des adjuvants. Donc, bon, bien entendu, comme pour tout médicament, il y a un principe qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'un vaccin, comme n'importe quel médicament, va être surveillé dans ses effets éventuellement négatifs. Et aujourd'hui, les autorités qui sont en charge de surveiller ces effets n'ont aucune inquiétude sur ces adjuvants.
Alors, on a compris, tous les vaccins sur le marché ont des spécificités, mais en ce qui concerne la protection qu'ils confèrent, là aussi, c'est très inégal. Pourquoi la plupart, d'ailleurs, je crois, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais ne nous protègent pas toute la vie, il faut les refaire, il y a des rappels, comment ça se passe?
Alors, je pense que c'est surtout lié à l'infection elle-même. Et on a des infections qui sont ce qu'on appelle des infections lentes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a contracté l'infection, on la garde à vie. C'est le cas de la varicelle, par exemple.
Eh oui.
Et donc, puisqu'on la garde à vie, on est aussi résistant à vie puisqu'on continue à abriter le virus. Il peut ressortir éventuellement à l'occasion d'un zona pour la varicelle. Mais finalement, on reste immun parce qu'on abrite le virus et donc on fait bon ménage avec lui, en quelque sorte. Et puis, au contraire, vous avez certaines infections qui sont récurrentes avec une protection qui est à très court terme. Et la plus banale, c'est le rhume. Et quelque part, le Covid
on peut l'avoir chaque année,
une variante du rhume avec une immunité qui, malheureusement, est temporaire, ne dure que quelques mois ou un an.
Est-ce qu'on peut espérer de nouveaux vaccins pour de nouvelles maladies? Est-ce que dans quelques années, il y a un ou deux enjeux importants qui pourront peut-être sortir?
Alors, c'est un enjeu très, très important depuis des décennies. On a déjà mentionné un certain nombre de pathologies. On pourrait aussi parler de pathologies non infectieuses comme le cancer, l'asthme, l'auto-immunité. Il y a aujourd'hui beaucoup de recherches pour développer des vaccins contre des antigènes spécifiques de tumeurs, contre des facteurs d'inflammation ou pro-allergiques comme IL-4 et une équipe française qui a récemment publié des essais très intéressants dans ce domaine. Donc il y a effectivement beaucoup de champs de la médecine sur lesquels on peut imaginer développer de nouveaux vaccins et les progrès récents peuvent rendre très optimistes sur les perspectives et les méthodologies qui apparaissent aujourd'hui.
Professeur Cogné, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre cette émission dans laquelle on vous aide aujourd'hui à mieux comprendre la vaccination. Mais juste après, évidemment, on va s'intéresser à la vaccination Covid. C'est un enjeu majeur des prochains mois pour espérer sortir de cette crise sanitaire. Alors on va répondre à toutes les questions que vous vous posez encore. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, professeur Michel Cognier. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur d'immunologie au CHU de Rennes. Alors, jusque-là, on a parlé de vaccination au sens large. Et à présent, on va s'obliger quand même, c'est un peu normal, à parler de vaccination contre le Covid. On l'a dit, les vaccins développés en un temps record. Et parmi les quatre qui sont actuellement sur le marché en France, ils font appel à des technologies différentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles? Je crois qu'il y a deux grandes familles, on va dire.
Oui, alors il y a des vaccins qui utilisent une base virale avec des virus qui ont été modifiés pour porter des antigènes du SARS-CoV-2, qui peuvent être des adénovirus en particulier. Et puis également, des gens travaillent avec du virus SARS-CoV-2, du coronavirus inactivé. Il y a aussi un certain nombre d'essais qui sont avec ce type de base. Et puis la grande révolution récente, c'est celle des ARN messagers, qui ont donné des résultats absolument inespérés, qui sont supérieurs à tout ce qu'on avait jamais vu en termes d'efficacité vaccinale.
Oui, justement, là, c'est un peu la Ferrari des vaccins, on a l'impression. Est-ce que, justement, ces fameux ARN messagers, vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible comment ça marche?
Alors, comme son nom l'indique, cet ARN messager, c'est un espèce d'intermédiaire entre le génome et la machinerie de production de protéines dans nos cellules. Donc, ce ne sont pas des éléments du génome eux-mêmes. Ils sont absolument incapables de modifier le programme génétique d'une cellule. Ça, c'est important à dire parce que
c'est
l'une
parfois,
des craintes.
Ouais.
Donc, il n'y a strictement aucun risque d'intégration de ces ARN au génome et aucun risque de modification durable. Par contre, ils vont permettre, sans introduire de virus, sans introduire de protéines dans l'organisme, de faire produire par nos cellules des protéines qui sont celles du virus et donc de nous immuniser de façon endogène, naturellement, nous faisant produire des protéines nouvelles, virales, qui vont faire réagir notre organisme.
Alors ça y est, il y a 20 millions de Français qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin Covid et donc en population. Vous avez dit tout à l'heure, ce qui compte beaucoup, comme avec tout médicament, c'est la pharmacovigilance. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade de la sécurité de ces vaccins en population?
Alors en vaccination, on parle toujours de bénéfice-risque. Aujourd'hui, quels que soient les vaccins qui ont été autorisés, s'ils ont été autorisés, c'est parce qu'ils ont un impact très très intéressant en termes de bénéfice-risque et qu'il est beaucoup plus sûr pour la population d'être vaccinée et de prendre le risque qui, très faible qui peut être lié au vaccin plutôt que de ne pas se vacciner, de rester exposé à un pathogène qui est dramatiquement dangereux pour l'homme. Donc je pense qu'aujourd'hui tous ces vaccins sont très intéressants. Clairement, ceux qui, à mon avis, resteront et continueront à se développer et sans doute auront des applications dans d'autres pathologies sont les vaccins ARN messagers.
Alors aujourd'hui, on a dépassé largement les 20 millions de Français qui ont reçu au moins une dose de vaccin avec principalement de l'ARN. Est-ce qu'on a pu observer des effets secondaires particuliers et différents de ce qu'on a pu observer dans les essais cliniques?
Alors effectivement, je pense qu'avec le vaccin AstraZeneca en particulier, il y a eu des accidents de thrombose qui sont rares, mais quand même préoccupant. Actuellement, en termes de bénéfice-risque, ce vaccin est quand même très intéressant, reste très intéressant et il a clairement sauvé des milliers de vies au Royaume-Uni en particulier. Je pense que c'est un vaccin qui reste à haut bénéfice-risque en période de pandémie. Mais malgré tout, ces effets étaient complètement inattendus et sont une mauvaise surprise.
Alors pour en finir avec l'épidémie, bien sûr, il y a la vaccination et c'est une arme très importante sur laquelle on compte évidemment, mais il faudra aussi arriver à mieux comprendre cette infection. Et vous faites partie de ceux qui s'activent sur le sujet grâce au soutien de la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale. Vous coordonnez le projet Harmonicov. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors c'est un projet qui est fait en partenariat avec des réanimateurs et en fait l'un des problèmes de cette pathologie, c'est qu'on a parlé jusqu'ici de la protection assurée par l'immunité, mais en fait le paradoxe c'est que certaines des manifestations gravissimes de la Covid-19 sont en fait liées à des réactions immunes inappropriées, déséquilibrées et puis avec une bascule de certains patients dans l'hyperinflammation. Et donc tout l'enjeu de nos recherches, comme d'ailleurs de beaucoup d'équipes à travers le monde, c'est de comprendre les modalités qui font basculer certains patients soit vers une réponse protectrice et bénéfique, soit vers une hyperinflammation qui peut les conduire jusqu'à un certain nombre de détresse respiratoire aiguë, jusqu'à la réanimation et des conséquences dramatiques.
Alors même si depuis un an, effectivement, c'est la catastrophe, on vit quelque chose d'assez compliqué avec le Covid, est-ce que quelque part, grâce au Covid, ça a été malgré tout un accélérateur incroyable pour la recherche médicale? C'est vrai que c'est triste peut-être qu'on ait dû en arriver là.
Alors c'est très difficile de dire ça aujourd'hui. Je pense qu'il est bien trop tôt pour dire merci la Covid, alors que des familles sont endeuillées, des gens sont malades ou des gens ont les complications de cette maladie. Mais il est clair que malgré tout, l'énorme effort de recherche, aussi bien académique que celui fait par l'industrie pour la recherche vaccinale, aura fait énormément progresser les connaissances et aura servi d'accélérateur pour beaucoup de ces technologies, notamment pour la vaccination ARN. Il y aura certainement des applications sur d'autres infections.
Ah oui, on a dit, on a fait un bond énorme là, en un an pour les maladies infectieuses, mais notamment la technologie de l'ARN messager. On parle déjà de l'utiliser pour guérir des cancers, peut-être d'ailleurs assez tôt, hein, pas dans 10 ans, dans 20 ans. Comment on peut guérir le cancer avec ça?
Mais aujourd'hui, on sait déjà que beaucoup de cancers sont caractérisés par la production de ce qu'on appelle des antigènes spécifiques de tumeurs. On sait utiliser ces antigènes, mais d'une façon qui est assez balbutiante jusqu'ici. Il est vrai que la stratégie ARN messager offre une technologie tout à fait nouvelle et qui aura démontré son efficacité avec des nombres de patients qui n'auraient jamais pu être atteints sur des essais cliniques chez des patients cancéreux. Et donc, l'établissement d'une preuve de concept qui est tout à fait intéressante pour d'autres pathologies aujourd'hui.
On peut imaginer des traitements pour le cancer à base de ce vaccin ARN d'ici quoi? 2 ans, 3 ans, 10 ans?
Je pense avant,
assez tôt, quand même.
Dans la décennie qui vient, clairement. Ouais. Je ne donnerai pas de date précise, mais les applications seront nombreuses, j'en suis sûr.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Cognier, d'avoir été avec nous pour cet éclairage autour de la vaccination et de la recherche.
Merci à vous.
Recherche qui a toujours besoin de fonds. Donc, si vous souhaitez y contribuer, surtout aider les chercheurs au plus près, vous pouvez faire un don sur www.frm.org. Tous les dons sont les bienvenus. Merci encore, professeur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Bien chez soi, dans laquelle on va vous aider aujourd'hui à bien faire vos courses, à mieux identifier ce que vous choisissez au supermarché et ramener dans votre frigo. Du pratique à venir dans son rendez-vous pour mieux consommer et toujours ce souci de prendre soin de vous. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé, bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, notre chronique Bien chez soi, dans laquelle on va vous aider à mieux faire vos courses alimentaires. Alors bien sûr, on a tous le droit à quelques excès, n'est-ce pas Jimmy? Quelques extras, nutritionnellement pas parfaits. On n'est pas là pour faire la police, mais comment être sûr quand même de remplir son caddie globalement avec des produits sains et bons pour la santé? Savez-vous lire les étiquettes? Optez-vous pour du bio? Et d'ailleurs, est-ce vraiment important? On va tout vous détailler, mais d'abord, on écoute le micro-trottoir sur le sujet réalisé par Valentin Piovesan.
Avant, effectivement, je faisais une liste de courses. Maintenant, c'est à l'instant, on passe devant le rayon, on dit « Ah oui, il fallait ça !» Mais on oublie toujours un truc.
En général, je fais une liste de courses, mais je l'oublie systématiquement. Donc, j'arrive dans le magasin et du coup, je le fais comme ça, un petit peu au petit bonheur à la chance.
Ça coûte super cher, donc mieux vaut pas trop se laisser tenter par tout ce qu'il pourrait y avoir en tête de gondole.
Je fais ma liste sur mon téléphone parce que je cuisine beaucoup avec le Thermomix, donc je fais ma liste de courses en fonction des recettes que je choisis.
Enfin, moi, j'essaye d'établir des menus sur ce que j'ai envie de manger la semaine. J'achète vraiment exactement que ce qui me manque et j'essaye au maximum de privilégier le sans plastique et le Origine France.
Moi, je programme absolument pas mes repas. Je vais faire mes courses quasi tous les jours, un petit peu.
Si je vais faire les courses lorsque j'ai faim, là, ça devient compliqué. J'achète un petit peu tout et n'importe quoi.
Alors, pour nous aider à mieux faire nos courses alimentaires, on a appelé un spécialiste des produits bons, des produits sains. C'est Benjamin Lévesque. Ouais,
j'ai quand même remarqué que vous faites appel à moi pour des sujets de fond à chaque fois.
Voilà, c'est ça. Puis on sait que le sain, tout ça, c'est vous. Donc, quels sont les premiers conseils, Benjamin, avant même peut-être de partir au supermarché?
Déjà, faire une liste, ça vous évitera de vous retrouver dans le magasin à ne pas savoir quoi prendre et donc acheter des produits qui ne vous seront peut-être pas nécessaires. Et puis, un conseil très important, on ne va pas faire ses courses en ayant faim, car c'est prouvé.
Clair.
Et oui, vous allez être tenté par tout et n'importe quoi, surtout du sucré et du gras.
Et justement, Benjamin, comment ne pas se tromper et choisir les bons aliments? Est-ce qu'une application telle que Yuka peut vraiment nous aider?
Alors, premier conseil, Jimmy, évitez de vous fier justement les yeux fermés à ces applications parce qu'il y a certains aliments ultra transformés qui peuvent être très bien notés sur Yuka, sur le Nutri-Score, et la réalité en fait est tout autre. Donc, retenez une chose, au supermarché, 7 aliments sur 10 sont ultra transformés, donc risqués pour la santé. Problème, ni ces applications ni le Nutri-Score ne savent les détecter.
Alors, il va falloir quand même du coup se fier aux étiquettes, mais franchement, Benjamin, on est d'accord, c'est illisible quand on ne travaille pas dans l'agroalimentaire.
Pour le commun des mortels comme vous, c'est impossible à décrypter,
vous,
c'est vrai.
Vous savez les lire, les étiquettes, bah, bravo.
Retenir une chose, une astuce, plus il y a d'ingrédients, plus la liste est longue au dos du produit. Et donc, c'est mauvais signe. Optez pour des produits avec le moins d'ingrédients possible, si
6, c'est bien, c'est l'idéal, pas plus. Et puis, ça va vous sembler idiot, mais qui utilise dans sa cuisine des citrates de sodium ou de la maltodextrine ?
Oui, pas moi, non, c'est
personne,
sûr.
Personne, sauf l'industrie. Donc, on évite les produits avec des ingrédients au nom obscur. Donc, si vous ne connaissez pas, vous ne mettez pas
Jimmy
dans le caddie.
Doit jeter tout son caddie, je crois, ça y est.
Oui, c'est foutu, j'arrête de faire des courses. Alors, il y a la question du bio, Benjamin. En 2020, on était 13% à en consommer tous les jours. Est-ce que c'est vraiment conseillé?
Alors, il y a certaines études, comme la grande cohorte du NutriNet, qui montrent justement que les consommateurs du bio auraient probablement moins de surpoids et d'obésité. Vous pouvez même manger bio, c'est associé à un risque de cancer moins élevé. Donc, si vous pouvez privilégier le bio, c'est un peu plus cher, quoique désormais, il y a même des marques de la grande distribution qui s'y sont mis. Donc, on peut manger bio sans se ruiner. Sinon, vous faites comme moi le dimanche matin, vous prenez votre caddiche et vous allez au marché.
Très bien, bah oui, le marché, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Benjamin, pour tous ces conseils. Et je vous signale au passage un livre vraiment très utile pour bien faire ses courses. Ça s'appelle « Le bon choix au supermarché ». C'est paru chez Thierry Soucard Édition. Et franchement, je vous le conseille, c'est un guide de référence sur le sujet. Vous y verrez clairement plus clair. Europe 1. Dans un instant, sans rendez-vous, de retour bien sûr avec la chronique sexo de Catherine Blanc, la sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour bien terminer la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint comme tous les jours à la fin de cette émission. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, on va donc terminer cette semaine avec cette question de Sidonie. Jimmy, est-ce que vous êtes prêt à nous la lire?
Évidemment, je me suis marié il y a peu. Félicitations, mais je commence à repenser à mon ex. Ouh là là. En fait, je rêve de lui. Ah,
non, mais
là. En fait, je rêve de lui et j'ai l'impression qu'à cause de ça, je remets un peu en question mon mariage, aïe, sans aïe, blague. Aïe. Pourtant, je ne crois pas avoir de sentiments pour mon ex. Je suis un peu perdu. Alors Catherine, moi, je peux l'aider. Évidemment.
Allez-y, allez-y, ça, je sais que c'est une question pour vous. Ça, c'est pour vous, ça, c'est sûr.
Non, mais attendez, elle vient de se marier. Elle pense déjà à son ex. Qu'est-ce que ça va donner dans 5 mois, dans 5 ans ou dans 50 ans? Alors, elle est perdue, effectivement. Alors, je ne sais pas quelle est la solution. Mais...
Alors, on lui dit quoi?
Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait, Catherine?
Alors, d'abord, je pense que quand on est dans un début de relation, c'est assez tout nouveau. Sans doute, évidemment, très idéalisé, mais surtout...
Le mariage, non?
Non, mais c'est peut-être surtout anxieux parce que ça y est, on est dedans, on est dans l'histoire avec la réalité qui vient de rencontrer l'idéalisation. Donc évidemment, l'idée de repenser au passé, à la liberté du passé, à la jeunesse, et d'ailleurs l'ex, il date de quand? Est-ce que c'est l'adolescence? De quoi parlons-nous? Donc finalement, c'est dans le avant, je trouve que plus que, puisqu'elle n'est pas du tout attirée, dit-elle, elle n'a pas de sentiment pour son ex. Donc ce n'est pas l'idée d'un sentiment plus fort pour un ex par rapport à un mari, c'est surtout la position d'ex par rapport à la position de mari et de futur et d'engagement qui me semble être plus à l'ordre du jour.
C'est fréquent de se poser autant de questions comme ça et d'être dans le trouble alors qu'on vient de franchir l'une des étapes les plus importantes de sa vie. Elle est mariée, ça y est, c'est fait. Et là, tout d'un coup, ça fait peu de temps, elle se pose déjà beaucoup de questions.
Oui, mais vous savez...
Je pensais qu'au début, c'était la lune de miel, c'était tout beau.
Non, en fait, dans la réalité, les moments les plus stressants dans la vie d'un être humain, ce sont les deuils, certes, mais aussi les déménagements, les mariages...
Les naissances.
Et les naissances. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment, ce sont des moments qui sont pleins d'ambivalence. C'est-à-dire on y va tambour battant, plein d'espoir, plein de désir, de quête d'un parfait, d'un lieu idyllique ou d'une situation idyllique. Et puis il y a la rencontre avec la réalité de l'autre, de ses petits travers qui étaient déjà, puisque maintenant les couples vivent ensemble.
On ne se découvre pas le jour J, oui.
Voilà, les gens vivent ensemble avant le mariage. Mais ça y est, c'est marié avec certains qui d'ailleurs, tout d'un coup, mettent un peu plus de points sur la table en disant « Bon, maintenant tu es ma femme ou tu es mon mari. »
Madame.
Voilà. Et du coup, une sorte de peur d'être emprisonné. Mais c'est une projection personnelle, plus que de la réalité de ce qui se joue dans la relation, bien souvent.
Est-ce que c'est parce qu'on dit que l'amour rend aveugle et que le mariage permet de retrouver la vue, que tout d'un coup...
De là que nous sommes les bonnes vieilles expressions.
Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que à peine mariée, déjà, elle en a marre et qu'elle pense à son ex.
Elle n'a pas dit qu'elle en avait marre. Elle a dit qu'elle pensait à son ex.
Elle regardait dans le rétroviseur.
Elle peut en avoir marre.
Attendez, excusez-moi, là, je vous trouve bien indulgente. Non, je ne sais pas si c'est une solidarité féminine, mais...
C'est votre vision de
tout. Je remets un peu en question mon mariage. Je remets un peu en question mon mariage.
Ah oui, quand même, c'est qu'elle le disait.
Ça sent pas très bon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à part dire de divorcer, ce qui semble un peu compliqué, mais
mais...
Non, mais c'est pas divorcé, c'est que d'abord avancer
trompé,
un peu.
D'être trompé dans
ces Non, pas du tout. Non.
Guidez-nous, Catherine.
C'est se dire que remettre en question, je pense que dans notre vie, il ne faut pas avoir peur de remettre en question notre boulot, notre mariage, nos amours fous pour les uns et les autres.
Là, quand même, hein.
Mais non, mais c'est pas grave de mettre remettre en question. Remettre en question, c'est remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir le tisser mieux, pour pouvoir y travailler, puisque c'est ça la vie. Remettre en question nos relations amicales ne veut pas dire on jette les amis pour en prendre d'autres, remettre en question son mari ou sa femme.
Donc elle ne doit pas écrire à son ex, c'est pas le...
Non, on ne va pas compliquer les choses. C'est parce que la question, elle n'est pas là. C'est remettre en question, c'est voir qu'est-ce qui ne me va et qu'est-ce qui ne me va pas pour pouvoir travailler dans le sens de ce qui me va. Donc elle regarde dans le rétro là actuellement, alors qu'elle est en voiture.
Donc,
et qu'elle va
devant.
Vers... Voilà, regarde devant et remet en question le projet, l'aboutissement, le chemin à prendre. C'est plus dans ce sens. Il ne faut pas avoir peur des remises en question. Je trouve plus effrayant les gens qui ont une idée en tête.
Moi, les rétro, je ne regarde jamais dedans, de toute façon, je ne conduis pas.
Ils ne dérogent pas et ils sont rigides.
Dans le mot, dans ex, il y a ex, donc ça veut dire que c'était le passé. Donc pourquoi, si la relation s'est terminée, c'est qu'il y avait bien un problème. Donc pourquoi est-ce qu'elle va idéaliser tout d'un coup un truc qui était certainement naze et elle a trouvé. Bah oui, si ça s'est fini avec un ex, c'est que c'est un problème.
Ça s'arrange vite en général. Hein.
Oui, c'est un peu à l'emporte-pièce. Mais bon. Mais c'est bien, ça a du bon, ça a du bon. Ouais. Merci Jimmy. Non, mais parce que ce qui est passé, malheureusement, nous avons tendance à le cajoler aussi et à avoir oublié les côtés négatifs. Alors, ou on grime tout en noir, ou au contraire, tout d'un coup, on met des gros soleils dans des vies passées, pourtant que nous avons passées. Bon, ceci, elle ne dit pas si c'est elle qui l'a quitté ou si c'est lui qui l'a quitté. Mais voilà, on idéalise les moments de jeunesse.
Pour regarder devant, en tout cas, c'est ce qu'on peut lui conseiller.
Oui, mais pas pour se forcer, pour améliorer et que ce devant soit comme on a envie de le construire.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis comme tous les jours. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, ils sont au centre de l'attraction. Oh, alors, oui. Avec Barnum, qui est passé dans la postérité, parce qu'un Barnum, on sait ce que c'est.
Oui.
Walt Disney, qui a créé des parcs d'attractions.
Vous êtes déjà allé au parc Walt Disney?
Jamais.
Vous n'avez jamais fait le Space Mountain?
Non, jamais.
On va le faire ensemble.
C'est vrai?
Ce sera l'objet d'un débrief.
Et vous allez parler du roi des forains?
Le roi des forains, anciennement le roi des forains. Il s'est un peu rangé des voitures. C'est Marcel Campion. Ouais. Vous allez voir qu'il a une destinée étonnante et un point de vue assez arrêté sur ce que devrait être Paris.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Et vous qui nous écoutez, ben surtout, continuez. Restez sur Europe 1.